pour reprendre l'heureuse salutation du père Xavier Dichon, ami du soir, bonsoir. Voilà. C'est l'occasion de le citer. Je ne sais pas s'il va venir ce soir parce qu'il avait commençait la grippe fortement vers 4 heures, donc ça expliquerait son absence. Voilà. Donc ce soir, c'est un des derniers exposés, c'est le dernier exposé du séminaire que nous avons fait pour les étudiants qui sont à temps plein. Nous avons fait 41 sessions, rencontres, de plus ou moins une heure et demie. Et alors, on voulait conclure ce séminaire par une réflexion plus d'ordre théologique ou pastoral ou liturgique, centré sur le mystère eucharistique. Une des raisons majeures, c'est quand même que un des fils rouges de la bioéthique ou de notre réflexion, des contradictions, etc., fut la notion de corps. C'est tellement un fil rouge que si vous n'étiez pas en votre corps, vous ne pourriez pas m'écouter et moi je ne pourrais pas parler. Voilà. Et alors, ce qui explique un peu le titre de cette intervention, j'ai ajouté le corps humain, puisque c'est celui qui nous intéresse, dans lequel nous vivons, nous habitons, et dans le corps du Christ. Alors bien sûr, le Christ est à la fois homme et Dieu, mais quand on dit le corps du Christ, c'est ce que je vais essayer de développer ou de méditer devant vous. Ça dit plus, ça dit certainement son corps historique, mais ça dit aussi autre chose, c'est le corps de Dieu. Et cela transparaît de telle manière que nous le retrouvons, nous y sommes confrontés à chaque Eucharistie avec les paroles de l'institution. Ceci est mon corps, pour vous montrer un peu où va la réflexion. Alors avant d'entrer dans la feuille de route et les quelques thématiques que vous avez devant vous, je voudrais introduire par quelques paradoxes qui viennent du corps du Christ ou de la manière dont il s'est présenté à nous, dont il est présenté dans les évangiles. Le premier paradoxe est le suivant, c'est à travers le récit de l'institution eucharistique qui nous est rapporté avec précision dans les synoptiques, ça veut dire Matthieu, Marc et Luc, les paroles de Jésus à la scène ont une densité de présence et de réflexion pour les apôtres, mais aussi pour les générations à venir. Dans l'évangile de Jean, ces paroles sont absentes et le récit de l'institution est comme remplacé et symbolisé magnifiquement par le lavement des pieds au chapitre 13. Donc l'élément fondateur du salut est ainsi offert sous deux modalités. Je ne joue pas avec les mots, mais paroles qui font ce qu'elles disent, on dit en linguistique une parole performative, paroles qui font ce qu'elles disent, ou bien gestes qui dit ce qu'il fait, le lavement des pieds, et ce qu'il signifie ultimement, c'est-à-dire l'abaissement du Christ, du Sauveur devant tout homme. L'amour se dit dans un acte libre et conscient pour autrui, et s'il est demandé de faire ceci en mémoire de moi, cela signifie que ces paroles sont pour les générations qui traversent le temps, c'est-à-dire pour nous encore aujourd'hui, alors que le contexte culturel ou le contexte des sciences a totalement changé. Le deuxième paradoxe concerne la personne même du Christ. Ceci est mon corps à moi, celui qui est pour vous. Le grec met en évidence le fait que Jésus parle du corps qui est proprement le sien. Et donc ce mémorial est propre et qualifie la personne du Christ en son corps. Le mystère de l'incarnation de Bethléem nous est rappelé dans un instant, cet instant dramatique où le Christ se donne et manifeste clairement la visée consciente et libre de son don comme fils, fils de Dieu fait homme. L'incarnation atteint son point, qui est une prophétie à la dernière scène, son point d'accomplissement au moment où le Christ dit « Ceci est le corps qui est le mien ». Le pain de la Pâque est saturé donc de sa présence active, mais cette présence n'est pas limitée par les limites de son corps ou celles des espèces. Quand je dis des espèces, ça veut dire le pain et le vin. Cette présence est une extase hors de son corps pour définir l'amplitude de son corps dans l'histoire du monde. La preuve, c'est qu'on fait mémoire de ses paroles et de cet acte. Quand Jésus prononce ces paroles, « Ceci est mon corps », son regard se porte sur le pain rituel de la Pâque qu'il partage avec ses disciples, mais son regard se pose également sur ceux qui sont rassemblés autour de lui avec Judas qui mange au même plat. Ce regard dit aussi ce qu'est le corps rassemblé de ses disciples. Son regard est posé sur les espèces du pain et du vin et non pas sur le vide. C'est-à-dire que tout l'ordre du créé est dès lors transformé par ce regard de l'homme-Dieu. Le temps et l'espace sont intégrés également dans le ceci et sont transformés aussi. Nous allons l'expliciter, mais c'est vraiment un paradoxe fort. Le passé deviendra une matière du mémorial, d'un mémorial, et l'avenir, matière d'une parousie, d'une attente, d'un accomplissement. Ces matières-là, à l'intérêt des apparences du pain et du vin du Shabbat, ne sont pas des concepts, ce n'est pas du virtuel, ce n'est pas uniquement que du matériel, c'est un corps personnel nommé par les paroles de Jésus lui-même. À travers ce paradoxe, montrons aussi qu'il y a un contraste. L'affirmation de Jésus est énoncée par Jésus lui-même. C'est assez frappant aussi pour les prêtres qui célèbrent, voilà, qui parle de « Ceci est mon corps », tout en étant lui-même en son corps personnel et historique. Cette distance entre lui et ce qu'il dit être lui dans l'histoire n'est pas réductible à ce que nous en voyons et en disons. La preuve, c'est que nous n'avons rien vu au moment même, nous n'étions pas là. Cette présence réelle défie nos perceptions sensibles de la présence. Bien sûr, la présence passe par nos sens, mais elle les suscite vers d'autres sens, puisque cette présence est multiple et reprend tout le créé, les créatures, la terre et le ciel, tout en disant toujours l'unique personne du Christ dans l'histoire sainte. Donc les sens, le toucher, la vue, le regard, ces sens liés au corps et à notre propre corps ouvrent notre intelligence au réel. Même des philosophes comme Kant disent qu'il faut connaître, entre autres en passant, par les sens. Mais ces sens corporels, spirituels, on verra, mais soulignent aussi nos limites. Les sens renvoient toujours dans l'unité de notre personne à l'acte de foi, ou bien au sens de la foi, qui voient, qui touchent, qui entendent une présence divine dans l'histoire. Ce qui est une grâce, ce qui est un cadeau. Tout le monde ne peut pas voir directement, entendre directement, que ce soit dans le pain consacré, ou même dans la personne de Jésus qui apparaît, la preuve pour les disciples d'Emmaüs, voir directement la personne du Christ sans entrer, sans recevoir par l'acte de foi, connaissance de cette présence et reconnaissance de cette présence parmi nous. Le troisième paragraphe, ou paradoxe, pardon, concerne les paroles mêmes du Christ encore. Le Christ ne dit pas, c'est ce qui se passe parfois dans certaines catéchèses avec les enfants, mais le Christ ne dit pas « je suis dans le pain ». Il ne dit pas « ce pain est mon corps ». On est tenté, tellement le mystère est grand, d'utiliser ces mots, mais cela n'est pas juste. Mais le Christ dit « ceci est mon corps ». Et ce démonstratif, ceci, nous ouvre une fenêtre sur l'infini. Qu'est-ce que c'est que ceci ? Je m'excuse de jouer sur les mots. Qu'est-ce que c'est que ceci ? Voilà. Mais c'est difficile. Ceci qui est le corps, et qui est surtout mon corps, dit le Christ. Est-ce l'objet matériel, le pain, le vin, qui sont seuls le corps du Christ ? Ou y a-t-il autre chose aussi comme contenu ? Alors, notons déjà la richesse symbolique du pain et du vin, particulièrement l'importance de ce qui devient le sang du Seigneur uni intimement à son corps, qui est le siège de la vie humaine. Nous qui avons tant parlé et discuté sur la vie, la bioéthique, eh bien, nous avons là, en son corps et en son sang, nous sommes confrontés à un symbole fort, à une vie qui est notre vie ou qui n'est pas totalement notre vie ou qui va être notre vie. Est-ce que ces apparences, ce pain et ce vin qui demeurent, alors que la substance est autre désormais, en tout cas dans l'Eucharistie, c'est Dieu, le corps du Christ, pardon, il y a autre chose donc, il y a quelqu'un. La personne divine ne se réduit pas à ses apparences du pain et du vin. Même si elle est vraiment entrée dans l'histoire à Bethléem et s'est rendue présente en chair, il est venu parmi les siens. Mais ces espèces créées disent ce qu'est le corps par la substance symbolique qu'elles sont, qu'elles représentent. Ce n'est pas n'importe quel pain, ce n'est pas n'importe quel vin. Donc, dès le départ, c'est pour ça que je le souligne dans cette introduction, ces paradoxes, l'univers symbolique est non seulement présent dans les paroles et les gestes de Jésus, mais il est hautement présent dans l'acte personnel par lequel le Christ énonce cette vérité pour nous et qu'il nous demande d'énoncer aussi et de vivre. Et alors, c'est une manière de parler, je vais, en mettant un lien avec le séminaire, souligner la portée du corps. Le corps est plus que le corps. Déjà, je l'ai souligné dans certains paradoxes liés aux paroles de Jésus, mais le corps est communion, le corps est de vie. Et vous voyez comment cela rejoint dans une autre épistémologie, dans un autre langage, une problématique qui était celle du séminaire sur la vie, le respect de la vie personnelle, etc. Le corps est plus que le corps. Cette évidence, nous l'avons vue tout au long du parcours du séminaire, à l'origine de la vie comme à la fin, pour le petit comme pour l'adulte, pour la personne âgée, handicapée ou malade. Pour tous, l'être humain ne se réduit pas aux apparences du corps. Tout être vivant est en son corps, mais nous savons combien la vie donne à ce corps des apparences différentes selon la croissance même, un petit enfant n'est pas un adulte par exemple, selon la modalité sexuée du corps, selon les événements auxquels ce corps humain participe. Maladie, guerre, le corps humain est soumis à tout ce qui l'entoure. Et des blessures. Il n'y a pas d'enfant qui ne fait pas une bosse un jour en roulant au vélo ou en tombant. La bosse, elle s'en va après quelque temps. Mais parfois, il y a d'autres accidents qui transforment le corps ou qui l'handicapent. Donc, les expressions du corps personnel sont diverses dans le temps et dans l'espace. Les gestes et les paroles disent cette richesse de l'être humain qui communique avec autrui qui établit une communion de personnes à travers l'amitié et l'amour. Rien ne se fait, rien ne se dit en dehors du corps qui est mien, et en même temps le sujet dit toujours, même sans le vouloir, un surcroît par le corps qu'il est et qu'il devient. On a un tout petit peu parlé, mais on peut parler au sens plein d'un langage du corps, comme Jean-Paul II l'a bien développé dans ses catéchèses sur l'amour humain dans le plan divin. Il y a un langage du corps dans lequel le sujet s'exprime, mais aussi parfois il est dépassé même, prenons l'exemple des Italiens, ils sont dépassés par les gestes, ça c'est pour Romano, ils sont dépassés par les gestes qu'ils posent en parlant, et une autre culture sera surprise à quelqu'un de la signification des gestes italiens dans la parole. Bon, voilà, ça c'est un exemple tout simple, mais c'est plus profond, c'est-à-dire que quand le sujet s'exprime par les mots, d'accord, et quand le sujet s'exprime aussi par le langage de son corps, il dit quelque chose par lequel il est dépassé comme un surcroît, et il révèle gratuitement ce surplus de sens. Cette diversité des personnes est un trésor qui appartient à l'humanité depuis qu'elle est sur la terre. Et ce trésor apparaît dans le caractère unique de chaque personne. La plupart des philosophes ont insisté sur cette unicité de l'être humain. Emmanuel Levinas ne suggérait, dans sa pensée entre autres, qu'il faut être, non pas l'otage, mais il faut décider devant le visage d'autrui. Autrui m'appelle. Autrui me convoque à l'espérance ou me convoque à agir pour lui. Ainsi, dans toute relation avec autrui, le corps est un carrefour éthique incontournable. Par lui, nous sommes appelés au respect, à l'amour de ce qui n'est pas nous et qui est d'égale dignité. Et nous parvenons non pas à percer son mystère et à le connaître totalement, mais à comprendre aussi qui il est en son corps, par son corps. Nous passons par son corps. Nous recevons comme un surcroît, et en même temps, il y a encore plus. Car l'uniformité des corps est une illusion, tant au point de vue biologique qu'anthropologique. Elle serait appauvrissement, car tout être humain est bien unique à ses propres yeux, aux yeux de Dieu, aux yeux d'autrui. Et la diversité des corps en est une attestation parmi d'autres, depuis le code génétique jusqu'aux variations phénotypiques du corps dans le temps d'une vie, selon l'éducation, la culture. C'est sûr qu'un adulte maya, parce que c'était la coutume d'écraser et de former la tête d'un enfant maya entre deux plaques de bois pour qu'il ait une tête bien allongée en pain de sucre, qui était un signe de noblesse, tandis que pour nous ce n'est pas tout à fait le cas. Mais dès que les fontanelles étaient durcies, il n'y avait plus moyen de changer la tête de l'enfant, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a une forme du corps qui dépend de notre histoire. Chacun de nous est connu de Dieu par son nom. Personne ne vient à l'existence sans avoir été voulu directement par Dieu. C'est une affirmation plutôt d'ordre théologique qui a été reprise bien longuement depuis le Concile. Elle est dans Gaudium et Spes numéro 24. L'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Cette unicité que nous reconnaissons à autrui et qui fonde aussi notre relation à lui est enraciné dans une relation immédiate avec lui, avec son créateur, que l'on reconnaisse ce créateur ou pas, qu'on veuille le nommer ou qu'on le nie, il y a une relation immédiate. On a beau dire, pour rendre la comparaison, on a beau dire, surtout en Belgique, que le soleil, on ne le voit jamais, donc on ne va pas dire qu'il n'existe pas. Il est derrière les nuages. De même, pour le créateur, on peut nier qu'il existe un créateur, comme dans beaucoup, comme dans, entre autres, le transhumanisme, mais peut-être qu'il existe quand même bien, et qu'il n'est pas seulement à la portée de notre propre intelligence. Pour marquer cette unicité, on peut la dire autrement, aucun être humain ne peut être substitué par un autre. C'est l'illusion, le fantasme du clone. C'est pour ça que je vous ai laissé le petit paragraphe là. La personne est cette unité dans laquelle se distingue un absolu dans un relatif qu'est son corps, dans des limites spatio-temporelles que représente le corps. Bien sûr, nous pensons aussi au lien entre l'âme et le corps. La personne est cette unité dans laquelle se distinguent des réalités distinctes, toujours dans l'histoire. Mais le corps est toujours plus que le corps. Cela signifie qu'il est plus que ce que nos yeux de chair peuvent en percevoir. Il est plus que ce que les observations de sciences différentes nous en livrent. J'y étais pas, mais avant-guerre, il n'y avait pas d'échographie, avant la guerre 40. Donc il y a une époque où les mamans, comme les papas, n'avaient aucune image dans leur caisse à images de ce qu'est un fœtus ou un embryon, un fœtus qui grandit, etc., au sixième mois. Mais depuis qu'on a des échographies, on observe quelque chose par cette science. Mais l'échographie ne nous dit pas tout sur celui qu'on l'on voit. Donc personne n'est sans son corps, mais personne ne se réduit à son corps propre, comme on dit. Il y a un mystère du corps, un surcroît de sens et de présence. Alors, au tout début de mon intervention, je disais le corps, personne ne se réduit aux apparences de son corps. Eh bien, on pourrait dire le corps dit plus que ses apparences, positivement. Il dit la personne dans l'histoire des hommes et dans l'histoire divine. Chacun de nous, nous pouvons dire en vérité aussi, ceci est mon corps, parce que c'est difficile de sortir de son espace-corps, enfin, sauf en rêve, en me disant, tiens, pour l'instant, je serai bien au soleil quelque part. Mais non, je suis sur une chaise, on ne peut pas quitter son corps, sauf par son esprit. Mais on peut dire, oui, ceci est bien mon corps. De temps en temps, en se levant, on a peut-être on prend du temps pour s'éveiller et on se dit, tiens, où suis-je, dans quelle chambre, ou bien la conscience s'éveille, comme on dit. Mais on peut dire aussi, en vérité, ceci est mon corps, en vérifiant le contenu de cette affirmation, eh bien, par nos sens, et aussi par nos sens extérieurs et intérieurs. Dans l'histoire de certains malades, pourtant, pour l'embryon comme pour le mourant, l'expression visible de cette affirmation, ceci est mon corps, n'est pas ou n'est plus toujours possible. En tout cas, par des moyens habituels. Par sa conscience, même l'enfant de 6-7 mois peut peiner à réaliser le corps qu'il a. Surtout qu'il fait tout noir, normalement, là où il est, avant de s'éveiller à la lumière, et dans un état comateux, par exemple, ou pour une personne malade, elle ne peut plus parler dans son langage habituel. L'embryon ne parle pas, il ne peut pas dire « ceci est mon corps, j'ai mal » et crier, le comateux non plus. Et nous avons vu ce que signifiaient ces situations comme appel éthique pour les membres de la famille qui aiment cet enfant, qui aiment ce papa qui est en train de mourir ou d'être fort malade. Donc un appel éthique pour la famille et pour les soignants. Donc cette prise de parole qui met un peu à distance du corps, ceci est mon corps, dit également pour nous que ce corps que nous identifions, que nous montrons, dont nous souffrons parfois, que nous pouvons soigner, est plus qu'un corps visible. Il est le corps intimement lié à la présence d'un être unique mis à l'existence pour l'éternité et qui cherche un accomplissement dans l'histoire et puis une plénitude de vie en ce monde d'abord et dans l'éternité. Je vous laisse avec cette petite question, je crois que je l'ai déjà indiqué, mais un fœtus, un enfant de 6-7 mois dans le sein de sa mère, dans l'éternité, quel corps il aura? Quel âge aura-t-il? Ou comme un enfant en catéchèse, je crois que j'ai peut-être déjà dit, de 7-8 ans, et qui vous pose la question, si je meurs demain, est-ce que je pourrais être grand au ciel? Parce que pour l'instant, je suis tout petit, et j'aimerais bien être au ciel, être comme papa, comme un grand. Donc, le corps est toujours plus que le corps visible. C'est ça que j'ai un peu essayé de montrer. Le corps est le symbole par excellence. Nous avons également expérimenté que le corps humain non seulement renvoie au-delà ou en deçà des apparences qu'il revêt, mais qu'il est incontournable pour dire à l'homme ce qu'il est et le sens de son existence. Donc, dire « ceci est mon corps » n'est pas seulement renvoyer à ce qui dépasse les apparences et le visible, tout en étant très concret, mais c'est aussi, c'est une nouvelle étape, révéler une part du mystère de la personne, du mystère du corps, qui n'est pas appréhendé d'emblée ou par des yeux marqués par telle ou telle méthode d'observation. Si je prends des jumelles, je peux voir très loin et très bien sur un point de la montagne. Mais c'est autre chose que enlever des jumelles et voir toute une chaîne de montagnes. Le corps peut révéler quelque chose. Et cette révélation peut revêtir des formes de désignation de tel ou tel aspect, comme lorsqu'on montre du doigt telle ou telle curiosité ou animal rare dans un paysage, ou lorsqu'un enfant parvient à dire où il a mal après une chute. Il y a une révélation. Cette affirmation face au Christ est de l'ordre de la foi, ceci est mon corps. Anthropologiquement, elle est toujours une lumière sur ce qu'est le mystère de la personne du Christ, mais aussi la personne de ceux qui disent aussi avec le Christ, ceci est mon corps, ou mon corps est pris dans ton corps. Dire « ceci est mon corps », c'est dire « je » face à un « tu ». C'est une expression de confiance envers le Créé qui m'entoure et les autres qui me rencontrent. Parfois, c'est une défense, ne marche pas sur mes pieds, c'est vraiment sur mes pieds. Donc, mais c'est aussi une vulnérabilité. Donc, dire « ceci est mon corps », c'est être dans une relation « je et tu » où il y a une vulnérabilité face au regard et aux gestes d'autrui. Pensons, au sens historique du terme, sans voir directement toute la dramatique de trahison, ben, quand Jésus dit « ceci est mon corps » en face du Judas, il n'a pas directement un cœur ouvert, ou il n'a plus directement un cœur ouvert devant lui. Donc c'est une vulnérabilité. Le corps humain concentre en lui-même un trésor de signification parfois éparse aussi dans le cosmos. Donc le fait d'être humain n'efface ni le lien avec la nature, ni le lien avec les faiblesses et les richesses de sens de cette nature. Le corps humain concentre tout un univers de signification, c'est comme ça que j'approche du mot symbole, car il dit... le sens de ce monde créé dont l'homme est l'intendant ou le lieu tenant de Dieu, comme dans Genèse 2,15. Il concentre ce corps, l'univers de signification, car il offre aux autres corps de trouver leur place également face au corps humain et au corps personnel. Je n'ai pas besoin de le dire à voix haute. Mais si je dis « ceci est mon corps » ou si j'apparais en mon corps dans une prairie et qu'il y a des lapins, ben, sauf petite sauf parole de bienfaisance, comme saint François d'Assise, eh bien, les lapins vont partir. Ils vont fuir. Ou bien, si c'est une vache ou un taureau, il va se situer massivement devant la présence corporelle dans la prairie de celui qui vient dans son territoire. Donc il y a un dialogue, entre guillemets, une situation du corps face au corps personnel. Et cela manifeste pour l'homme, je crois, un peu grossièrement, quand on parle de l'homme comme lieutenant de Dieu, comme roi de la création. Les textes de la Genèse sont assez explicites pour dire cette place privilégiée de l'homme dans la création. Si l'homme est le sommet de la création, Genèse 1, 27, ce n'est pas seulement au niveau de sa différence de nature, c'est vrai, ni de la perfection de son corps, on l'a bien vu, mais il y a des petits animaux qui sont plus directement dans la vie de tous les jours que le petit de l'homme qui doit apprendre. Donc, si l'homme est le sommet de la création, c'est pas seulement au niveau de sa différence de nature ni de la perfection de son corps, mais aussi parce que grâce à lui, c'est une option philosophique et théologique que j'énonce ici, les autres créatures sur la terre trouvent aussi leur place. C'est peut-être plus manifeste dans les Fioretti de saint François d'Assise, mais c'est grâce à saint François d'Assise que le loup de Gubbio trouve sa place dans le village. C'est grâce à saint François d'Assise que les poissons se rassemblent, dit-on, hein, dans le lac ou dans la rivière, et viennent écouter la parole de Dieu. Ce qui est dit pour un saint est valable pour nous tous, c'est-à-dire le chien est un chien et nous voyons certaines de ses qualités pour l'homme, entre autres de fidélité apparente, hein, vous voyez ce que je dis, parce que nous le situons dans l'univers de notre humanité. Et si un enfant pleure son chat qui vient de mourir et demande au curé de le bénir, de faire un enterrement, c'est qu'il mesure sa différence avec le chat, et en même temps, il se dit, tiens, mais il échappe parce que moi, je ne suis pas chat. Je donne des petits exemples, mais bon, c'est une option, comme on dit, un peu idéaliste, mais qui rejoint l'option réaliste d'Aristote, qui distingue quand même, ou saint Thomas, les différents degrés d'être. C'est comme si en nous, parce que nous sommes nous, que nous sommes des jeux aussi, eh bien nous donnons consistance à l'ensemble du réel comme lieu tenant de Dieu. Nous n'inventons pas le réel, nous le recevons. Donc ce corps personnel, avec tout ce que j'ai dit, n'est pas un corps solitaire. Dans ses catéchèses, Jean-Paul II, sur Genèse 1 et 2, parle de la solitude originelle de l'Adam. Mais c'est une solitude d'attente, de communion. Toute solitude charnelle et spirituelle, pour être vraie et paisible, doit revêtir ces traits-là. Par ailleurs, donc, d'une solitude, le corps personnel dit toujours qu'il vient d'ailleurs. C'est la question qu'on se pose quand on est petit, ou bien quand on a été fécondé in vitro. On se pose la question, mais non seulement comment j'ai été produit, mais d'où est-ce que je viens? Quels sont mes vrais parents? De qui suis-je le fils ou la fille? Le corps personnel vise un ailleurs, mais à partir d'une filiation. Et l'ailleurs qu'il vise, c'est une communion de type nuptial, conjugal, comme le disait Xavier au niveau du droit et de la personne. Ce corps personnel sexué dit la richesse de la radicale différence sexuelle et témoigne aussi d'une potentielle fécondité. Et donc, quand j'ai parlé hier des antidotes au transhumanisme, j'ai parlé de revenir aussi sur la création, je suis en train de le faire en partie quand même, et à cette réalité du corps auquel nous avons à consentir. C'est en notre corps que nous avons à consentir à être homme. Et notre corps occupe toujours un espace et un temps. Il manifeste la limite pour chacun de nous, notre limite, et en même temps suggère un mystère infini. Et la manière radicale dont nous nous situons dans le monde ou dans la création vient de la manière dont nous acceptons les limites du corps, ses faiblesses, ses maladies et la mort. Nous acceptons ces faiblesses comme un appel à un abandon à celui qui est à la fois le Créateur et le Sauveur de l'univers. Ça ne veut jamais dire qu'il ne faut pas se soigner, comme on l'a vu. Et ça veut dire aussi, à un moment donné, qu'on ne veut pas d'acharnement thérapeutique. Ces limites du corps révèlent en creux un plein, ce qui dépasse le corps, ou une abondance d'une qualité d'être dont la vie humaine est un chemin décisif, puisque chacun de nous est une histoire sacrée. Et la vie qui anime les corps est souvent fragile et vulnérable, mais cette vie, elle est comme un témoin qui dit de manière incontournable une vie et un monde qui ne passeront pas. C'est un peu énigmatique. On dit, tiens, tout le monde meurt, mais la vie continue. Pourquoi, comment? Donc la vie est plus grande que l'être humain. Non, la vie est un témoin que la vie de l'être humain est appelée à une vie comblée. Soit en philosophie, on peut un peu argumenter cette attente, ou bien à ce que nous appelons la vie avec Dieu, la béatitude éternelle, ou l'éternité, le paradis. Donc, toute vie que nous voyons peut être lue, interprétée comme un témoignage d'un monde qui ne passera pas, d'une vie qui ne passera pas, d'une radicale puissance de la vie par rapport à tous les processus mortifères depuis l'évolution des animaux darwinienne jusqu'à nous. Mais il y a une vie qui traverse, et ça, elle a un but, c'est une signification, mais pour chacun de nous dans notre esprit, nous pouvons l'interpréter. Elle nous atteste que nous sommes des vivants et nous sommes faits pour la vie. Et donc à ce moment-là, le corps que nous avons, même si nous avons une grippe, un rhume, ou bien plus grave si nous sommes aveugles et sourds, ce corps, comme symbole, donne à penser, renvoie à ce qui le dépasse toujours. À ceux qui l'ont conçu, par exemple, je viens d'où? Je suis le fils de qui? À celui qui l'a posé dans l'être, à ce qui lui donne vie et permanence dans le temps et dans l'éternité. Le corps est le symbole par excellence, et que je dorme, que je me lève, que je m'assois, que je parle ou je me taise, que je mange, et je suis toujours dans un corps qui me dit plus que ce que je peux voir en me rasant ou que ce que je peux voir en me peignant pour d'autres. Voilà. Il y a quelque chose dans mon corps qui me renvoie à plus que mon corps. Il est le symbole d'une vie. Il est le symbole d'une présence. Il est le symbole du Créateur. Le corps comme symbole, donc, donne à penser, et aussi, je crois, donne également de penser aux autres et à Dieu. Donc je joue un peu sur les prépositions. Le corps comme symbole donne à penser, et le corps comme symbole donne de penser aux autres et à Dieu. Que ce soit quand on accueille des invités, quand on fait la cuisine pour d'autres, ou bien quand on conduit une voiture, mon propre corps dans la machine qu'est la voiture me donne de penser que je ne peux pas franchir le rouge, ou que je ne peux pas tamponner tout le monde à mon plaisir. Voilà. Donc, me donne de penser aux autres corps dans l'univers. C'est pour ça qu'on aime bien regarder le ciel et les étoiles. Et puis quand on s'y connaît un peu mieux et qu'on voit les traductions des milliards d'étoiles, etc. Mais Quel est le sens de leur existence? Moi qui suis dans mon corps, cet univers-là acquiert un sens. Ou bien en mon corps propre, je puis penser aux autres, à une communion. Parfois c'est tout à fait spontané, comme un enfant qui revient de l'école et qui se jette dans les bras de sa maman, c'est spontané. Et il pense en son corps à sa maman qu'il n'a plus vue depuis le matin ou à son papa. Voilà. À la place des autres corps dans l'univers, mon corps me donne de penser au sens d'une communion personnelle aussi, aux mots que librement chacun peut dire par son corps et en son corps à Dieu qu'il ne voit pas. Je peux dire des mots à Dieu par ma prière, en marchant, en étant à genoux, etc. Eh bien, je dis des mots en mon corps. Je cite, un peu comme argument, comme petite référence, saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, qui dit ceci: la spécificité de la condition de la nature humaine, c'est d'accéder aux réalités spirituelles et intelligibles par la corporéité et la sensibilité. Donc j'accède à Dieu en mon corps, par mon corps. Pour chacun de nous donc, le corps propre est le lieu d'une révélation. C'est en mon corps que je me sens aimé, que j'aime. C'est en mon corps que je fais amitié. C'est en mon corps que je fais confiance pour toujours. C'est en mon corps que je glorifie le Créateur. Le corps tel qu'il est, celui qui peut marcher, qui marche. Celui qui est dans son lit, il reste dans son lit. Dire que le corps est le symbole par excellence, c'est dire combien il est le lieu, comme disent les philosophes, d'une présence à soi, quand on est éveillé en tout cas, cette présente conscience, une présence aux autres et à Dieu, que ce soit pour le malade à travers sa fatigue ou les médicaments qu'il a pris, etc., ou au contraire aussi, les soignants. Le langage souvent des aides-soignantes est plus compréhensible que le langage du médecin ou que la courbe de température au pied du lit. Voilà. Mais c'est pour cela que le corps est un symbole et qu'il est le symbole par excellence, parce qu'il est une présence, et le lieu d'une présence à soi, aux autres et à Dieu. Cette présence est aussi connaissance. Je me connais. Je ne peux pas prendre ce type de boisson parce que ça me fera mal. Voilà. Je connais les autres aussi. Je sais que en communion corporelle, mais je sais qu'un tel est frileux, eh bien, le petit bébé, je prends une couverture de plus. Je donne des exemples que j'ai entrevus le week-end dernier. Mais voilà. C'est tous les modes. C'est symbole pour dire. Le mot symbole, ce n'est pas une méconnaissance ou une non-science. Le symbole, par excellence, c'est une connaissance. Et c'est un lieu par lequel on connaît et on se fait connaître. La preuve, c'est que désormais, il y a un langage qui est devenu plus universel que l'anglais dans les aéroports ou les TGV, etc. Mais c'est les petites figurines qui vous disent la porte de sortie, les toilettes et les bagages, etc. Alors ce n'est pas des symboles, ce sont des signes. Il y a des signes qui nous indiquent que moi, comme symbole, je peux comprendre ces signes-là, même si je ne connais pas le japonais là où j'arrive, quoi, ou le chinois. Donc il y a une connaissance qui passe par le corps, mais toutes les connaissances ne peuvent réduire ou mesurer la connaissance que le sujet a de lui-même en son corps. Le symbole, c'est un corps, pour reprendre une expression du pape François, est un corps qui est une maison habitée, dont le locataire ou le propriétaire peut dire « je suis là », même s'il est inconscient. Nous restons dans notre corps quand nous dormons. Dire ceci est mon corps, c'est dire une identité qui est d'accueil et d'ouverture à l'identité d'autrui et à celle de Dieu, dont la quête est inscrite charnellement dans notre corporité. Et le corps, c'est le lieu où symboliquement nous acquiesçons à cet acte de créature, c'est la maison ordinaire de la personne dans laquelle le Christ et son esprit sont bien présents, car cette chair s'apprivoise, se mêle, s'échange, s'unit amoureusement à la chair du Christ, sa chair à la nôtre. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je ne sais pas si j'ai bien cerné le corps comme symbole. Vous voyez bien la différence entre un signe et un symbole, le feu rouge et le feu vert, ou un signe dans le ciel, entre un rite qu'on emploie dans telle culture et un autre. Ici, c'est un symbole qui est vivant, qui est une personne. Le corps est communion. Les paroles « ceci est mon corps » ne sont pas isolées dans la tradition qui nous les transmet, puisque le Seigneur Jésus invite ses disciples à entrer dans un rapport particulier à son corps. Il poursuit son discours, si vous vous souvenez, son discours testament. Il ajoute, pour ceux qui sont autour de lui, ces paroles de communion « prenez et mangez ». Donc nous sommes invités à accueillir le mystère du corps, à entrer dans cette confiance qui dépasse notre propre conscience du corps propre et notre propre conscience du corps de Jésus qui parle. Et en signe de prophétie pour les souffrances prochaines, Jésus ajoute « ceci est mon sang ». Donc il bénit la coupe pascale, il invite chacun à entrer dans cette communion puisque nous partageons et la coupe et le pain, dont l'enjeu est la vie et la mort. Prenez et buvez. Et il nous offre ce sacrement de sa présence. Le sacrement est un symbole, mais qui est habité par l'acte du Christ et l'acte de l'Église qui poursuit la vie sacramentelle en son corps. Parce qu'il dit à ses disciples de faire de même pour la multitude. Donc il y a un langage instauré et un signe permanent de sa présence d'amour pour les hommes qui est un sacrement. Ce qui était vrai pour les disciples à la scène et pour le Christ l'est aussi pour nous. Dans l'économie sacramentelle, nous pouvons le voir, le toucher, le manger. Donc les espèces du pain et du vin qui appartiennent à l'ordinaire de la vie, elles sont un lieu privilégié pour maintenir cette présence, pour la faire grandir. Elles ont, ces espèces, pain et vin, un lien privilégié avec la maintenance et la croissance du corps humain. C'est quand même du froment. Elles ont un sens avec le signe de l'hospitalité. Toute nourriture partagée donne une force physique à celui qui est alimenté. Et cette force peut être aussi spirituelle. Elle est communion d'esprit et de cœur. Manger à la même table, c'est quand même entrer dans une intimité mutuelle d'amitié, de fraternité, de communion qui est interpersonnelle mais qui passe par les corps. Manger le corps du Christ pour les apôtres, être à la même table, c'est un mystère hein, fort. C'est, je ne sais pas si je ne mets pas à leur place ni à la mienne, s'ils ont tout compris, bien entendu que non, mais ils ont été invités par le Christ à entrer dans sa propre intériorité. Ceci est mon corps, mangez. Ceci est mon sang, buvez. C'est pour ça que dans certaines traditions, on a même comparé l'acte sacramentel de communion, plutôt l'acte conjugal, à l'acte sacramentel de communion dans la tradition de saint Thomas. C'est-à-dire que c'est une pénétration symboliquement forte dans l'intimité du Fils de Dieu en sa personne. L'Eucharistie est donc apprentissage régulier à accueillir et à trouver le Christ en nous, puisqu'il est venu habiter parmi nous et en nous, et nous le faisons nôtre par notre corps. Nous devenons comme lui, ou nous aimons comme lui par son corps. Et notre corps peut devenir ce que la liturgie orthodoxe appelle. Le chrétien qui a communié, il est théophoros, il est porte-Dieu. Comme dit saint Jean au chapitre 6, « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Donc toute communion passe par le corps. Et ce qui est fort, c'est que la communion avec le Christ passe par les espèces du pain et du vin, par cette transformation qu'il a voulu, qu'il fait en ceci et mon corps. La tradition de l'Église désigne par la même expression Corpus Christi, le corps de Jésus né de la Vierge Marie, le corps eucharistique et le corps ecclésial du Christ. On l'a rappelé au dernier synode sur l'Eucharistie. Le même terme unifiait les trois réalités. Parler de communion pour l'un, c'est en parler pour l'autre. L'Eucharistie, dès la dernière scène, est un mystère de communion ecclésiale. Elle dit quelque chose du corps personnel du Christ, bien sûr, mais de notre propre corps au sein du corps qu'est l'Église. La présence du Christ historique nous est donc offerte d'une autre manière, plus intérieure qu'extérieure à première vue. Mais la condition pour cette présence est la mort et la résurrection du Christ, pour qu'il soit intérieur au corps de ses disciples. Sa vie doit couler en nous comme la sève de la vigne coule dans les sarments. Le Christ passe ainsi dans le corps de ses disciples, il vit en eux, il habite en eux. Manger le corps, c'est trouver le Christ à l'intérieur de nous-mêmes et devenir lui en nos corps, fils dans le Fils. C'est en ce sens que nous pouvons percevoir dans l'accompagnement en fin de vie le beau carrefour du sacrement des malades et du viatique. Il manifeste dans l'histoire d'un baptisé la manière, quand c'est possible, dont il vit sa Pâque à l'intérieur de la Pâque du Christ. Le Christ lui devient intérieur jusque dans son corps souffrant et qui va vers la mort. Le pain de vie, le viatique, hein, c'est la communion, le pain de vie est offert pour une vie qui ne passera plus. Car le pain de Dieu, dit Saint Jean chapitre 6, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Que ce soit pour le mourant ou pour chaque communiant, une vérité se fait chair. Le Christ vient et continue à faire sa demeure en eux. Son corps est uni à leur corps devient son corps, et cette communion-là, profonde, s'établit et grandit. Qui mange ma chair ne mourra pas. Un théologien qui est peut-être un peu oublié actuellement, Duruel, dans son livre sur l'Eucharistie, Présence du Christ, je le cite un tout petit peu, en disant que le chrétien ne perd pas sa personnalité en communiant. Plus que jamais, il est le sujet de sa vie. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, en citant Galates 2, 20. Les corps des fidèles sont des membres du Christ, mais ne cessent d'être leur corps à eux. Vos corps sont des membres du Christ, 1 Corinthiens. Donc il y a un chemin extraordinaire d'intériorisation à travers l'union des corps, le partage du corps et du sang du Christ, et ce quotidien, c'est extraordinaire dans l'ordinaire du temps et de l'espace, nous est donné dans le corps sacramentel du Christ. Si le Christ est en nous, si nous devenons le corps du Christ, le regard posé sur les autres corps ne peut que changer. Ce regard de foi nous indique les enjeux de nos actes, de nos rencontres, de nos paroles. La communion que nous pressentons possible devient une réalité puisque par l'Esprit Saint, le même Christ fait sa demeure dans les corps personnels de nos frères et sœurs. La communion qui s'établit dans et par les corps humains n'est pas uniquement de l'ordre d'une ressemblance physique, je pense aux questions de procréation, ou d'une reconnaissance de la transcendance de l'homme, en disant que l'homme est un être d'esprit, c'est par son esprit qu'il ressemble d'abord à Dieu, c'est aussi en son corps, dans son unité personnelle. Cette communion peut être un fait, mais elle est surtout une grâce dans la tradition judéo-chrétienne qui nous est offerte dans la dernière scène. Elle est participation en notre corps à l'intériorité de la présence divine, c'est-à-dire la présence d'un sauveur dans l'histoire, que ce soit pour le petit enfant ou bien pour la personne qui va mourir. Il y a une communion qui s'établit. Et je termine en développant le corps est un lieu de vie. Je ne vais pas trop vite. C'est vrai que ce ne sont pas des concepts. Parfois, je redis un tout petit peu la même chose en d'autres termes. J'essaie de vous faire saisir cette consonance, en tout cas, entre le corps personnel que nous sommes, la consonance entre le corps personnel du Christ historique et comment, par ses paroles, ceci est mon corps, il nous établit en communion avec lui et avec l'ensemble du créé dans l'espace-temps qui est le nôtre, mais dépassant l'espace-temps qui est le nôtre. Nous liant au passé, puisque nous ne pouvons pas vivre cette communion sans faire mémorial d'un acte unique dans l'histoire, qui est la dernière scène, et d'autre part, nous ne pouvons pas non plus nous arrêter à cet acte en le figeant dans un rituel quel qu'il soit, mais il ouvre à la vie éternelle. Nous sommes déjà en vie éternelle à travers cette Pâque qui nous est offerte. Le corps est un lieu de vie. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, dit Saint Jean, dit Jésus dans Saint Jean au chapitre 10. Cette parole du Christ explicite son désir de voir les malades guéris, les pécheurs pardonnés, les hommes et les femmes participer à son œuvre de salut, particulièrement dans les soins, dans les opérations, dans les manière de sauver l'homme malade. Le désir de Dieu, il est ample. Il concerne tous les hommes et toutes les époques. Le regard de foi que nous posons sur des gestes et des paroles tels que ceux de la dernière scène, qui sont une prophétie de ce qui se passe dès la nuit du jeudi saint, dès l'entrée dans les ténèbres, nous montre comme une concentration de vie exprimée dans le « ceci est mon corps ». Ceci est mon corps. Et c'est peut-être une manière aussi de bien comprendre les paroles. En dehors de lui, de son corps, il n'y a pas de salut, puisque lui est notre salut et il ne veut que notre salut. En dehors de cet acte d'amour, pas d'amour ni de vie. Tout est pour lui, tout est en lui, tout est par lui. C'est un des cris de l'Eucharistie dans la liturgie, juste avant Notre Père. Donc, en lui, tout homme est aimé, sauvé, respecté dans sa liberté jusqu'au bout. Il y a une concentration d'enjeux historiques, éthiques, pour chaque homme et pour tout homme depuis la nuit des temps, puisque par cet acte, Jésus traverse l'espace et le temps. L'Eucharistie a été instituée à un moment donné du temps, mais par son acte d'amour, ce salut prend tous ceux qui l'ont précédé et tous ceux qui nous suivront. C'est un acte à la fois déconcertant, bouleversant, immense. Et il faut pouvoir redécouvrir combien ces paroles-là, ceci est mon corps, sont source de vie. Si nous entendons cette parole, nous comprenons mieux aussi qu'il a lui aussi, Jésus, la force sur la croix de livrer son esprit, d'expirer en Jean 13 sur le monde. Et comment aussi, après sa mort, de son sein jaillissent des fleuves d'eau vive. Comment son désir était cela, que la vie traverse tout l'univers, que le côté transpercé du corps du Christ sur la croix est la source d'une vie pour les siècles, et que ce n'est pas une idée, ce n'est même pas un beau tableau, ni une icône, c'est une réalité. C'est un corps qui n'est pas le corps de n'importe qui est le corps du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, qui est la source de toute vie pour les siècles. C'est ce corps qui est livré pour notre vie, pour que, comme dit Saint Jean chapitre 10, nous ayons la vie en plénitude. C'est pour ça qu'il donne et qu'il se dénomme « Je suis le pain vivant, c'est ma chair pour la vie du monde ». Et donc, quand nous dialoguons, ou nous discutons, nous sommes interpellés, et disputés, comme on dit parfois, en tout cas en espagnol, sur en bioéthique, sur des vies qui n'ont pas de sens, comme un anencéphale, ou bien un comateux en état végétatif, eh bien, il faut se rappeler quand même que le sens de ces vies et de nos vies à nous aussi ne jaillit pas d'une idée, ni même d'une loi qu'on rappelle, mais d'un corps singulier, de cette identification avec de ce corps malade, par exemple, avec le corps de Dieu dans l'histoire. Alors, nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes unis à Jésus-Christ. Et le Christ, en unifiant tout en distinguant, dans l'unité de sa parole et de son geste, sa personne du pain et du vin offert pour la multitude, nous indique des lieux de vie, de véritables antidotes, un remédium. Je crois qu'Hermano va parler de medicina, non ? Non, d'autres, un autre mot.
Pharmacon.
Un pharmacon. Il est le... C'est pas le pharmacien du coin, hein, c'est pas ça, mais on voit bien tout ça. Il est la vie par excellence, mais il nous indique aussi des lieux de vie. Le pain eucharistique, nos propres corps, l'assemblée eucharistique, le corps que nous formons fraternellement avec nos frères et sœurs dans la société. Et nos regards sont appelés à s'exercer et à s'affiner pour découvrir cette beauté, cette vérité du réel qui n'est pas toujours cela, en apparence en tout cas. Je cite un père de l'Église, et c'est un grand, pas un grand-père, mais un père qui est grand, Grégoire de Nice, dans un discours catéchétique, et qui dit ceci, « Celui qui voit le pain voit en un certain sens le corps humain, puisque le pain absorbé par le corps devient le corps lui-même. De même, dans ce cas-ci, le corps qui a porté Dieu en lui était en un certain sens identique au pain, du moment qu'il absorbait le pain en nourriture, et que, comme on l'a dit, la nourriture se transforme pour se fondre dans la nature du corps. » Il parle de nous en communion. Mais ce corps, en raison de l'inhabitation du Logos de Dieu, a été transformé et élevé à la dignité divine. Nous sommes fils adoptifs dans le Fils. Ce qui fonde ces observations nouvelles sur la vie, c'est bien sûr l'incarnation de Dieu dans l'histoire et sa mort sur la croix, sa résurrection. C'est une décision de Dieu. C'est un fait historique. Et cette volonté du salut s'est déployée dans l'histoire. Nous ne sommes pas à l'âge zéro de l'amour ni de l'identification de Dieu avec le corps des hommes. Le corps en qui Dieu s'est incarné est source de grâce particulière pour tous les corps, que ce soit les tout petits enfants. Enfin, j'emploie le mot enfant, mais si on dit zygote, hein, embryon, c'est tout petit, on ne voit pas l'œil nu. Eh bien, tous ces enfants ne sont-ils pas pris depuis des millénaires par la grâce du corps unique du Christ? Ainsi, les paroles de la scène rassemblent-elles, ceci est mon corps, toute la force de cette insertion de la divinité dans notre histoire humaine. C'est des paroles unitives qui préfigurent tous les enfants de Dieu dispersés dans l'espace et le temps et qui sont unis dans le corps du Christ. Et le Christ nous demande de continuer cet acte d'unification dans l'histoire pour la multitude et jusqu'à la fin du monde. C'est des paroles de vérité sur ce que sont nos corps. Ce sont des lieux de vie. Cette présence et habitation divine qui existe dans nos vies. tout comme un peu de levain, comme le dit l'apôtre, rend semblable à lui toute la pâte, de même le corps rendu immortel par Dieu, une fois introduit dans le nôtre, change et transforme celui-ci tout entier à sa ressemblance. Je cite Théologien Duruel. C'est-à-dire, le corps, notre corps est changé à la ressemblance du corps du Christ. Et cet acte du Christ nous rassemble comme peuple élu, comme humanité, quand nous le prenons dans nos mains, quand nous le mangeons. Cet acte du Christ nous dit ce que nous sommes en lui, l'ultime vérité de notre corps. C'est que nous restons personne à part entière, sujet, nous restons nous-mêmes, mais nous devenons son corps. Et donc c'est l'occasion de dire, quand il y a des connivences personnelles entre l'embryon humain et sa mère, entre le malade et celui qui en prend soin, sont enracinées dans le corps personnel du Christ. Et s'il y a un appel éthique, parfois refusé, mais un appel éthique dans de nombreuses situations que nous avons parcourues et évoquées, c'est bien un appel à aimer, comme le Christ a aimé, un appel à aimer le corps de ceux que le Christ rassemble en lui, malgré les apparences de ce corps dans l'histoire des hommes ou dans l'histoire d'un homme quand il grandit, qu'il vieillit et qu'il change dans son corps. L'Eucharistie est donc bien le don du pain et du vin pour la route. Viatique, c'est un mot plus ancien, mais qui montre que nous sommes en chemin, que nous vivons et nous sommes bien vivants, et en même temps que nous vivrons aussi un jour pour toujours avec lui. Le viatique, quel que soit le moment où le Christ se donne à nous, si on est jeune et qu'on reçoit ce viatique parce qu'on est leucémique, qu'on va mourir, ou vieux, en bonne santé ou malade, prépare toujours le jour où nous le verrons face à face tel qu'il est. Ce viatique, cette communion, est préparation et anticipation de l'alliance éternelle qui est vie pour toujours. Et donc, quand on dit que l'Eucharistie est promesse d'immortalité, c'est pas pour nous dire, c'est pour quand je serai mort. Ça donne tout son poids, à tous les instants de nos vies, tout son poids à notre propre corps, qui est uni à ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il y a une intensité de chaque instant de nos vies qui sont non seulement dans la main de Dieu, mais dans son éternité. Tout amour à l'image et à la ressemblance de celui qui parle ainsi est un amour plus fort que la mort, comme dit le Cantique des Cantiques au chapitre 8. Et donc, dès ici-bas, une telle oblation, une telle ouverture du corps est une ouverture à la vie. Elle est don de la vie. Malgré toutes les forces de mort que nous pouvons pressentir en nous, autour de nous, ou dans combien d'années, malgré le temps qui passe, malgré le péché de l'homme, ce corps est une parabole de l'Esprit de Jésus. Ce corps est vie en raison de la justice que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire de son salut qu'il nous a offert. Je cite pour terminer, saint Paul, voilà. « Si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà en raison du péché, l'Esprit est vie en raison de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Eh bien, c'est sur ces quelques mots que je termine. Voilà.